Interlocuteur, compagnon de route et ami de Heidegger durant 30 ans, Jean Beaufré aborde aujourd'hui, dans cette sixième émission, le point où vient converger, dès 1935, l'ensemble du questionnement de Heidegger, la question de la technique dans le monde moderne. Mais en posant sa question, Heidegger se détourne du sens courant, pratique, que l'on donne au mot « technique », afin de nous orienter vers une dimension plus originelle d'où procède l'essor du machinisme. Cette dimension ne pouvant s'atteindre qu'en rompant avec la classique distinction théorie et pratique. Jean Beaufré, Heidegger questionne la nature encore non pensée, selon lui, de la technique moderne. Et c'est pour que nous puissions avoir un jour un rapport plus libre avec elle. Dans votre livre « Dialogue avec Heidegger », vous écrivez « Issu du monde de la philosophie, le dévoilement technique de l'étant, de ce qui est la vraie philosophie de notre monde. Voulez-vous dire que pour comprendre l'ère de la technique, il faut remonter aux sources de la philosophie ?
C'est d'autant plus vrai dans le cas de la technique que, comme le terme de philosophie, celui de technique, est en français un mot qui parle grec, comme il le fait tout aussi bien en anglais, en allemand ou dans toutes les langues modernes. C'est un terme qui apparaît au XVIIIe siècle seulement, c'est-à-dire que Descartes ne l'emploie encore nulle part. Mais on le trouve pour la première fois dans Diderot, je crois, qui parle au masculin du technique de la peinture. Dès le début du siècle suivant, tout le monde sait bien qu'une école qui n'avait pas d'abord ce nom se rappelait l'école polytechnique. Le terme de technique, encore inconnu à Descartes, intervient ainsi dans le climat pré-cartésien des temps modernes, mais pour y parler grec.
Mais le mot technique qui parle grec, est-ce vraiment symptomatique? Par exemple, cinématographe, héliotrope ou téléphone sont des mots d'origine grecque. En quoi cela nous éclaire-t-il?
Heidegger est cependant le premier qui ait pressenti qu'un terme comme technique et comme le terme de philosophie n'est pas en français un simple décalque du grec, comme héliotrope ou téléphone, par exemple, mais plutôt une parole grosse d'histoire, où c'est la pensée grecque elle-même qui persiste à nous initier à travers la distance croissante qui nous sépare de ce qui fut chez les Grecs l'origine même, la naissance même de la philosophie. Il en est ainsi parfois pour certains mots. Pensez à quelques autres mots comme idée, comme énergie, comme musique ou comme politique. Et il se pourrait que le mot technique, lui aussi, intervienne là pour nous inviter à un peu plus d'attention que ne comporte l'emploi courant de ce terme.
Comment, dès lors, entendre d'une oreille grecque le terme de technique?
La réponse de Heidegger est univoquement la suivante. En se détournant d'abord du sens courant que l'on donne à ce terme et qui lui fait désigner avant tout un mode de la praxis par opposition à la théorie. Dans ce domaine, Marx a plus fait que quiconque pour avaliser cette interprétation pratique de la technique, en expliquant d'ailleurs, contre l'opinion courante, car il s'oppose aussi à certaines opinions courantes, en expliquant contre l'opinion courante que même la théorie en général provient de la praxis. C'est bien connu, là où Comte, Auguste Comte, par exemple, avait dit « science d'où prévoyance, prévoyance d'où action », Marx dit « action d'où prévoyance, prévoyance d'où science ». Sur ce point, il ne faisait d'ailleurs qu'être en accord avec son ennemi intime Proudhon, comme Bergson le sera sur ce point plus tard avec lui. Heidegger se refuse au contraire à entendre la technique comme une application du théorique, fût-ce avec la correction marxiste que le théorique lui-même aurait son origine dans la praxis.
Mais en quoi les Grecs pourraient-ils nous être d'un bon secours ?
En ce sens que pour eux, le terme de techné, d'où vient notre terme de technique, n'a aucun sens prioritairement pratique. Techné, Platon l'emploie synonymiquement à épistémé, qui signifie le savoir. Et dans Aristote, le terme de techné intervient comme l'un des sujets possibles du verbe aletein, qui signifie mettre à découvert, installer quelque chose dans le domaine ouvert de l'aletheia, comme par exemple le Parthénon sur l'Acropole.
Mais alors, la technique au sens grec reviendrait donc à un retour du pratique au théorique.
N'allons pas trop vite. On se hâte toujours beaucoup trop de jongler avec la dualité théorie et pratique. Les Grecs connaissaient bien cette distinction qui, disaient-ils, se fait à rebours. La praxis commence en effet au terme du savoir théorique et marche en sens inverse. Par exemple, le médecin commence à soigner en premier lieu à partir de ce qui a été vu en dernier lieu comme la cause possible de la maladie dont les symptômes frappent d'abord. Mais pour que ce puisse faire la distinction même du théorique et du pratique, ne faut-il pas que soit là d'abord ce à propos de quoi on pourra chercher à faire aussi bien des recherches théoriques que des interventions pratiques. Cette mise en place primordiale, qui n'est encore ni théorique ni pratique, c'est-à-dire qui dit Heidegger est pour ainsi dire antérieure à la distinction du théorique et du pratique, et pour les Grecs, le moment de la techné, ou si l'on veut, son regard. Tout dépend de ce qui, dans la présence de la chose, apparaît ainsi comme initialement prépondérant et par rapport à quoi le reste, qu'il soit théorique ou pratique, n'est que ultérieur et de rang second, disait Platon. Or, dans notre monde d'aujourd'hui, en présence de n'importe quoi, ce qui est premier et principal est toujours une réponse possible à la question de combien. Par exemple, en combien de morceaux faut-il diviser la tarte pour chacun de ceux qui y prétendent en est un morceau, sinon égal, du moins proportionnel à tout ce que l'on voudra, à leur rang social par exemple. C'est là ce que Heidegger appelle le projet mathématique de la nature que, mieux que quiconque, Descartes a porté au langage.
Mais enfin, lorsqu'on se trouve en présence d'une difficulté, n'est-ce pas naturel de se poser la question combien, d'essayer de calculer, d'analyser ce qui est devant nous pour tenter une réponse précise ?
Pour tenter une réponse précise à la question de combien ? Eh bien, ce n'était pas là pour les Grecs l'essentiel. Ce n'était là que l'une des dimensions du phénomène. Celle qui, dit Aristote, répond à la catégorie de la quantité, qui n'est elle-même que l'une des catégories. Par exemple, le Parthénon sur l'Acropole a, c'est bien connu, environ 68 mètres de longueur, 30 mètres environ de largeur et sa hauteur est de presque 20 mètres. Mais il est prioritairement un temple et qualitativement un temple dorique. Et cela, il ne l'est nullement à partir de ses dimensions mathématiques. Socrate raconte dans le Phèdre que la question que l'on posait un jour à Prodicos était « De combien de paroles un discours a-t-il besoin pour être ce qu'il lui faut être ?» La réponse de Prodicos était la suivante. Prodicos avait répondu en riant « Ces paroles, elles ne devront être ni beaucoup ni peu, mais juste ce qu'il faut. » Tel était, en présence du monde, l'attitude naturelle de ceux à qui il fut présent à découvert, sans rien en lui qui pèse ou qui pose.
Il n'y a donc là pas de place prépondérante donnée au nombre. Le projet mathématique de la nature issu de Descartes est celui qui fait régner le calcul en maître.
La question qui se poserait alors à propos de la vision grecque des choses serait la suivante. Pourquoi la vision grecque des choses, à savoir la techné des Grecs, a-t-elle été supplantée par le projet mathématique de la nature? Mais cela, nous ne le savons pas encore, et c'est une question que nous pouvons laisser provisoirement en suspens. Reste cependant que nous pourrions déjà formuler ce qui suit. La technique n'est pas dans son essence le côté praxis de la théorie que certains iront à interpréter jusqu'à faire de ce côté des choses la source de la théorie elle-même, mais la technique est ce à partir de quoi, dans le monde moderne, advient la distinction en sens inverse de la théorie et de la praxis, la délimitation qui les sépare ne faisant clairement surface nulle part. Et c'est pourquoi Heidegger pourra dire « C'est la science moderne de la nature, y compris la praxis qui lui correspond, qui a son fondement dans les développements essentiels de la technique moderne, et non la praxis dans la théorie, ou l'inverse. » Cette phrase, il l'a dite, ou à peu près, je l'ai un peu développée dans un interview qui a été diffusé par la télévision allemande le jour du 80e anniversaire de Heidegger.
C'est donc le regard technique qui serait à l'origine de la science et non pas l'inverse.
C'est le regard technique qui est à l'origine de la science comme projet mathématique de la nature, de même qu'il avait été à l'origine de la science grecque. Et l'erreur des modernes est de se laisser obséder par leur réduction du technique au pratique. Le pratique, aussi bien que le théorique, fait partie du technique, non l'inverse.
Lorsque nous pensons technique, monde de la technique, avec ses appareils techniques, nous n'avons donc qu'une vue instrumentale de la technique. Une question de la technique, pour Heidegger, se pose tout autrement et tente une approche de son énigme, de ce qui n'est pas encore pensé en elle.
L'énigme de la technique pour Heidegger est essentiellement dans son rapport au sens grec du mot techné, qui fait que lorsque nous employons le mot technique, c'est un peu de pensée grecque qui se réintroduit dans notre monde, mais d'une façon telle que ce peu de pensée grecque qui est illuminant par rapport à l'essence même de la technique nous est totalement oblitéré.
Aujourd'hui, nous avons tendance à voir les choses tout autrement. D'une part, le savant qui fait des recherches, des calculs, et d'autre part, le technicien qui, en général, se contente de les appliquer. Entre les deux, il y a une frontière. Or, dites-vous, l'héritage grec de la pensée grecque nous montre que cette frontière, cette démarcation totale n'existe pas. Que le savant et le technicien se trouvent dans une dimension qui les relie.
Le savant et le technicien sont l'un et l'autre du même côté et non pas de part et d'autre dans la mesure où tous les deux appartiennent à la même dimension, à savoir la dimension de la technique telle qu'elle se réduit à partir de Descartes au projet mathématique de la nature.
Par conséquent, pour Heidegger, le problème est mal posé. Il se réduit au problème de l'œuf et de la poule. Science, technique, qui est premier ?
Science, technique, qui est premier ? Non, plus exactement, science ou pratique, qui est premier ? La technique n'intervenant elle-même qu'à la remorque de la pratique. Alors que pour Heidegger, la distinction théorie et pratique n'a rien de particulièrement éclairant pour la question de la technique.
Mais alors la façon dont Heidegger pose la question de la technique fait éclater en quelque sorte la distinction entre pratique et théorie.
Elle ne l'avait pas éclatée, elle est maintenue cette distinction. On la trouve dans Aristote. C'est Aristote qui dit que théorie et pratique se rapportent l'une à l'autre, anapaline en sens inverse, au sens du médecin dont nous avons parlé tout à l'heure, qui commence à soigner à partir du point où s'est arrêté le théoricien quand il a cherché la cause de la maladie. Donc, ce n'est pas tellement éliminer la distinction de la théorie et de la pratique, mais dire que ceux qui cherchent à éclairer la technique, comme Marx, à partir de la distinction de la théorie et de la pratique, parlent pour ne rien dire à propos de la technique, si, en effet, on s'en tient à cette distinction, à savoir la distinction de la théorie et de la pratique comme lumière possible sur la technique, on arrivera à cette énormité de dire qu'entre la technique au sens vulgaire des Grecs et la technique moderne, il n'y aurait qu'une différence de degré, ce qui paraît aussi énorme que ce l'on disait qu'entre une église romane et une église gothique, il n'y a qu'une différence de degré. Tout ce qui est dans le gothique se trouvant déjà dans le roman, et tout ce qui est déjà dans le roman se trouvant encore dans le gothique. Alors il ne resterait plus qu'à dire ce que Heidegger dit avec un peu d'humour dans sa conférence sur l'essence de la technique. Même le machinisme moderne, avec ses turbines et ses générateurs, reste à nos yeux un moyen produit par l'homme en vue d'une fin posée par l'homme. Même l'avion à réaction, même les moteurs à haute fréquence ne sont que des moyens en vue de fin. Sans doute, une station de radar est-elle moins simple qu'une girouette qui indique la direction du vent ? Sans doute, la production d'un moteur à haute fréquence exige-t-elle la convergence d'apports variés que contrôle un bureau d'études ? Sans doute, une scierie à eau dans un coin perdu d'une vallée de la forêt noire est-elle un moyen primitif en comparaison des installations hydrauliques qui utilisent le courant du Rhin ? C'est cependant bien connu, même la technique moderne n'est qu'un moyen en vue de fin.
Mais alors, dans cette optique, la technique ne serait pas un moyen en vue d'une fin. Que serait-elle, alors ?
Elle est la vision même que l'homme des temps modernes a du monde.
Et cette vision est liée à l'idée du progrès et du développement scientifique.
Cette vision que l'homme moderne à du monde, c'est celle que Heidegger appelle le projet mathématique de la nature.
Ce projet mathématique a une date dans l'histoire de la philosophie. Il a son acte de naissance et Heidegger, comme vous-même, vous l'a souligné souvent. Galilée, dans le Saggiatore en 1623, écrit « La langue dans laquelle est écrit le livre de la nature est la lingua mathematica. » Par quoi Jean Beaufray, ajoutez-vous, dira Descartes, nous sommes appelés à devenir maîtres et possesseurs de la nature.
Par quoi est peut-être excessif, je dirais plutôt à partir de quoi il va nous devenir possible d'être, par rapport à la nature, dans la situation que Descartes caractérise par la locution de maître et possesseur. Descartes n'a aucune envie de devenir spécialement maître et possesseur de la nature. Il ne faut pas se représenter encore Descartes comme l'homme de la volonté de puissance de Nietzsche. Entre Descartes et Nietzsche, il y aura du chemin à faire et ce chemin sera jalonné par les noms de Leibniz, Kant, Fichte, Schelling, Hegel. C'est seulement avec Nietzsche qu'il dit d'une manière formelle que la calculabilité, dit Beherrschbarkeit, devient le fondement de la Beherrschbarkeit, de la dominabilité possible de la nature, selon le vœu, non pas de Descartes, mais de quelque chose qui est beaucoup plus secret que Descartes lui-même, à savoir ce que Nietzsche appellera volonté de puissance.
Sur son chemin de pensée, on ne trouve, dans l'œuvre de Heidegger, aucune vitupération contre la technique et la science moderne.
Il n'y a dans Heidegger aucune vitupération de la technique et de la science moderne. Ce que je cherche à faire, dit-il parfois, c'est d'apporter plus de lumière sur leur essence que ceux qui, ayant parlé de la technique à partir de la praxis, ont plutôt, dit-il aussi, accumulé de l'obscurité et des ombres sur le sujet dont ils traitaient, qu'ils n'ont apporté en lui de lumière. Par conséquent, il s'agit d'éclairer la question et non pas de prêcher contre le développement de la technique dans le monde moderne. Ses prêches, Heidegger les laisse à d'autres qu'à lui. Peut-être existe-t-il du côté de ceux qu'on appelle les écologistes, à coup sûr pas du côté de Heidegger, qui vivait une vie à Fribourg dans sa maison, dans laquelle il était entouré de tout le confort que peut amener un certain développement de la technique. Enfin, il avait des disques, il avait le chauffage central, et il ne vivait pas dans une caverne.
On écrit des centaines de livres sur le problème de la science, sur les problèmes de la technique. C'est presque un sujet rebattu. Comment se fait-il que personne n'attache de l'importance à la démarche de Heidegger ?
Tout simplement parce que Heidegger est de la même race qu'un peintre comme Cézanne, par exemple, qui, vivant dans la clandestinité d'Aix-en-Provence, comme Heidegger a passé sa vie dans la clandestinité de Fribourg, écrivait cependant à son fils, en toute simplicité, « Tous mes compatriotes sont des culs à côté de moi. » Qui s'aperçoit aujourd'hui que la présence de Heidegger dans le monde est aussi importante qu'a pu être la présence de Platon, la présence d'Aristote, la présence de Descartes ou Leibniz, la présence de Kant ou de Hegel? Personne. Un de mes étonnements majeurs est que nos compatriotes, fermés à l'intérieur de l'université et de l'Académie, n'ont pas encore compris qu'ils avaient été les contemporains de l'un des rares hommes par qui est portée à la parole une interprétation qui frappe d'invalidité ce qu'il raconte du matin au soir.
on reste surpris. Est-ce que ce n'est pas le rôle de la science de poser le problème, de penser le problème de la science et de la technique? Est-ce qu'il faut attendre de la philosophie un éclairement? Pourquoi?
Non pas de la philosophie, mais de ce que Heidegger ne cesse d'appeler le pas qui rétrocède de la philosophie jusqu'à une pensée autre que la philosophie, mais dans laquelle la philosophie elle-même aurait sa source. D'où retour aux Grecs. Pour l'entreprise qui va devenir l'essentiel pour Heidegger, non pas revenir aux Grecs pour s'en tenir à eux, mais pour reprendre leur questionnement à partir de son origine encore voilée, non pas simplement zurück zu den Griechen, comme il le dit, mais über das griechische hinaus, c'est-à-dire au-delà du grec lui-même, pour arriver à penser la chose qui est en question et qui se manifeste autour de nous avec la puissance de manifestation qui est celle de la technique elle-même, in seinen Anfang zurück, jusqu'à son début encore inapparent.
C'est donc cela que, dès le début de sa conférence, qui eut lieu en 1953, Heidegger appelle à avoir un rapport plus libre avec la technique.
Plus libre et de moi. Heidegger avait dit à l'époque un libre rapport à la technique. Mais je crois que l'absolu est toujours de trop et par conséquent, j'ai préféré traduire le positif libre par le comparatif plus libre et je suis persuadé que si j'avais eu l'occasion d'en parler avec Heidegger, il m'aurait entièrement approuvé sur ce point comme il l'a fait parfois sur bien d'autres.